croisés. Voilà, il y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corban. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son évasion.
Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Bonsoir.
Bonjour, bonjour. On commence cette émission avec une nouvelle journée de grève, de manifestation et de répression. Aujourd'hui sur Lyon, 17 arrestations de manifestants, dont une très violente par des motards. Sur un pont lyonnais, encerclement des manifestants, contrôle d'identité, fouille de sac, occupation du lycée Récamier, occupation du palais bondi par la CGT territoriale et la nuit debout continue sur la place Guichard. Et oui, le mouvement contre la loi travail continue et non, faut pas se décourager. Et vous écoutez La Petite Cuillère aujourd'hui en solidarité avec tous les prisonnières et les prisonniers et contre toutes les formes de prison. Hein.
Et ouais, aujourd'hui, on va vous parler un peu de grève et de mutinerie en Belgique.
Et on vous parlera aussi du quartier femmes de Fleury-Mérogis et des mobilisations qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur.
On vous parlera aussi de Lesbos, en Grèce, un petit peu.
Et de Lampedusa, qu'est-ce qui se passe par là-bas?
De Fresnes, et puis on finira par nos rubriques, la photomaton, le bruit qui court, notre lime à ongles, et on vous parlera, si on a le temps, mais c'est pas dit, de l'Australie aussi, un petit peu. Et si on commençait avec la Belgique?
Avec la Belgique, parce que en Belgique, il y a une grève des matons depuis le 25 avril, et cette grève des matons, elle est très suivie en Belgique francophone, là, pas trop en Flandre, dans le nord du pays. Mais la grève des matons, enfin, ils demandent un peu comme en France tout le temps la même chose, là, alors on ne va pas s'attarder sur leurs revendications. Par contre, depuis 15 jours, les détenus sont privés de téléphone, sont privés de parloir, il n'y a plus de douche, il n'y a plus de sortie en promenade. Des fois, c'est juste des trucs tout cons qui manquent, mais les papiers toilettes qui ne sont pas réapprovisionnés. La cantine, c'est pareil, c'est la merde. Les vêtements, la laverie, ça fonctionne plus. Et il n'y a plus qu'un seul repas par jour dans de nombreuses tôles. Et ça amène à faire des grosses colères du côté des détenus, parce qu'en fait, les matons, s'ils ne vont pas au taf, ils ne vont pas au taf. Et ils restent chez eux et ils sont très contents. Mais les détenus, ils restent en zonze pendant ce temps-là. La justice, du coup, a été saisie par des détenus en colère pour ça, pour être privés de sortie, privés de parloir, privé de douche et de repas. Et
ouais, parce que concrètement, du coup, ce que ça fait, c'est que les détenus, ils restent en cellule 24 sur 24 quand il y a des grosses grèves de matons comme ça, et ils ont droit à rien du tout, quoi.
L'État, il dit, il n'y a plus les effectifs, et puis voilà, quoi. Et par contre, l'État, il a été condamné 3 fois, toute fin avril, au bout d'une semaine de mouvement des matons et une semaine de vie de merde pour les détenus. Donc 40 détenus des prisons de Nivelles et d'Ittre ont obtenu de la justice une douche tous les 2 jours et 2 parloirs par semaine. Attention, quoi. C'est la fête. Mais si l'État ne parvient pas à leur fournir, et ce qui est sûrement le cas, bah, il doit leur payer une astreinte chaque jour, ou il n'arrive pas du coup chaque jour, je ne sais pas, il y a quelques milliers d'euros qui partent pour les détenus. À voir si c'est appliqué ou pas ensuite. Mais ça, ils ne se sont pas arrêtés là, les détenus, et déjà le 1er mai 2016, les détenus de la prison de Tournai ont commencé d'abord à taper sur les portes des cellules, et ensuite ils ont un peu augmenté l'intensité du mouvement en foutant le feu, et il y a plusieurs cellules qui ont été ravagées et qui ont nécessité l'intervention des pompiers sur place et aussi de la police fédérale. En parallèle, là c'était 2 jours plus tard, le 3 mai, dans la prison de Huy, les détenus, même raison de la colère, ont brûlé leur matelas pendant la nuit, provoquant encore une fois les pompiers et une descente de flics dans la prison. À Tournai, c'était aussi des incidents du même type, avec plusieurs détenus qui ont mis le feu à leur matelas, des chiottes de pété, et qui ont réussi à inonder toute une aile de la prison. Je ne crois pas que ça ait fait une évacuation de la prison de Tournai. À la prison de Nivelles, c'est pareil, des objets enflammés ont été lancés par les fenêtres. Dans la prison d'Arlon, toujours en Belgique, il y a eu deux fois des départs d'incendie. Le même jour, c'était tout ça le 4 mai. Et là, c'est du côté flamand, où c'est plus parti en latte, parce que même s'il n'y a pas trop de grève là-bas, de Mâton, ben les détenus, ils ont dû voir aux infos ce qui se passait et du coup, ils ont lancé une mutinerie dans la nuit de samedi à dimanche 8 mai. Et là, c'est 170 détenus qui ont refusé de regagner leur cellule et qui ont plutôt saccagé la cour de promenade et qui sont affrontés aux Mâtons qui voulaient qu'ils rentrent, quoi. Mais en fait, les Mâtons, assez vite, ils ont pris la fuite et là, ça a été la mutinerie générale avec des détenus qui étaient dans les autres ailes de la prison de Merksplas qui ont mis le feu et qui ont défoncé les portes des cellules. Puis après, une fois qu'ils ont pu sortir, ils ont saccagé toute la tôle jusqu'à 6h du matin. Plusieurs pavillons et plusieurs ailes de la prison ont été rasées, juste vraiment les murs abattus, les couloirs l'intérieur de la prison ont été saccagés, les grillages ont été détruits. Même les flics qui disent là, c'est du jamais vu, quoi. Et un détenu s'est évadé pendant la mutinerie, mais pas de chance, il a été repris dans les champs autour de la prison. Et comme une grande partie de la prison là, est complètement détruite, il y a au moins 100 détenus et sûrement plus qui ont été transférés en urgence vers d'autres établissements pénitentiaires au début de la semaine. Le 8 mai, c'était le lendemain de cette nuit d'émeute de mutinerie dans la prison de Merksplas. Là, c'est dans le centre-ville d'Anvers. Ces deux prisons qui sont à quelques kilomètres l'une de l'autre, parce que Merksplas, c'est dans la banlieue d'Anvers. Dans le centre-ville d'Anvers, il y a plusieurs dizaines de détenus qui ont déclenché aussi une mutinerie. Et dans la prison d'Andenne, c'est des incendies qui ont repris avec des gros dégâts et avec le cri de liberté qui résonnait partout dans la tôle. Dans la prison de Lantin, enfin, et ça c'était toujours le 8 mai, des détenus ont démoli les portes des cellules, les couloirs, les grillages et ont allumé des incendies dans toute la tôle. Et alors, face à ça, ben, la grève des gardiens, elle continue. Les Mâtons, ils continuent à être en grève. Ils s'en foutent. Enfin, c'est pas leur problème. Du coup, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, le gouvernement ? Ils ont envoyé les flics dans les prisons pour faire le boulot des Mâtons. Et au bout de quelques jours, les flics, ils en avaient marre de faire le boulot des Mâtons. Alors, ils sont mis en grève aussi. Alors, c'était dimanche 8 mai. Le gouvernement a annoncé qu'il allait déployer 180 militaires dans les tôles pour faire régner l'ordre. Et ouais, le gouvernement a toujours des solutions. Les militaires, ils seront seulement des matraques et des gaz lacrymogènes pour que les gens se rassurent et que non, on n'envoie pas des gens avec des fusils d'assaut dans les prisons. Mais voilà. Et là, on en est là. Ça a continué un petit peu cette semaine, apparemment. On a moins de nouvelles, mais la mobilisation continue. Avec une affiche, notamment, qui est apparue en début de semaine côté francophone. Alors je vais vous lire le texte parce que il éclaire un peu, enfin il est plutôt bien. Cette affiche a été diffusée à l'extérieur des prisons. On est enfermé comme des rats. L'hygiène est déplorable, ça pue dans les cellules. Depuis le début de la grève des gardiens qui dure depuis 13 jours, les détenus ne sortent plus de leurs cellules. Pas de douche, pas de préau, pas de visite, pas d'activité, parfois même pas de repas ni de médicaments. Il y en a qui tombent malades, qui attrapent des infections, qui pètent les plombs. Enterrés vivants, 24 heures sur 24, on les laisse pourrir. On est à deux doigts de l'émeute. Partout, dans toutes les tôles, c'est le même son de cloche. Les prisonniers s'apprêtent à passer à la meilleure chose qu'ils peuvent faire maintenant. Défoncer les cellules et détruire les tôles. Dans les prisons de Tournai, Arlon, Huy, Lantin, Andenne et d'autres, des incidents ont déjà éclaté. Incendie de cellules, inondation des ailes, saccage des couloirs. C'est du jamais vu. Ce samedi 7 mai, une mutinerie dévastatrice a secoué la prison de Merksplas à Anvers. Des ailes entières ont été démolies et incendiées par les prisonniers insurgés. Des murs ont été rasés au sol, des grillages abattus, des sections saccagées. C'est maintenant qu'il faut agir. Les prisons sont à deux doigts d'exploser, les quartiers infestés par les militaires et les flics grondent. La colère des exploités menace de lancer un nouvel assaut contre ce gouvernement. C'est maintenant qu'il faut agir. Exprimez votre solidarité avec les détenus en révolte. Donnez corps et âme à votre ras-le-bol. Brisez le quotidien de résignation. Lancez un défi sublime au pouvoir, le défi de la liberté et de la solidarité. Pour la Belgique. Pop, pop.
Bah, ça fait plaisir en tout cas, parce que du coup, là, on a dans pas mal de choses qu'on va dire. C'est beaucoup des mouvements à l'intérieur des tôles et du coup, ça bouge dehors, mais ça bouge aussi grave dedans. Et, Mais bon, on ne sait pas trop pourquoi maintenant ça sort, alors que d'habitude ça sort moins, parce que bon, il y en a toujours des actes de résistance en tôle. En tout cas, on est content et contente de savoir que ça bouge grave dans plein de tôles et qu'il y a des gens qui se mobilisent et qui et on espère qu'ils ne vont pas trop s'en prendre plein la gueule, quoi.
On continue avec une lecture de lettres de la lutte du quartier femmes de Fleury-Mérogis, qui a commencé il y a un mois. Et là, c'est une lettre qu'elles ont écrite au journal L'Envolée sur Paris, le 4 mai 2016. « Bonjour, nous vous écrivons de la MAF de Fleury-Mérogis pour vous informer des changements effectués par la direction concernant les horaires de promenade après le passage au système de promenade unique et de la suite des mouvements que nous, prisonnières, avons réalisés. Nous constatons que le but de l'administration pénitentiaire est de restreindre les mouvements des prisonnières au minimum. » Le système mis en place nous oblige à choisir entre prendre l'air deux petites heures ou réaliser une autre activité, que ce soit sportive ou culturelle. Si notre activité et même notre parloir coïncident avec la promenade ce jour-là, nous ne sortons pas. Au week-end, comme nous l'avions déjà communiqué, il n'y a pas d'activité et par contre il y a souvent des parloirs, alors nous restons enfermés en cellule pendant des heures et des heures à attendre la promenade du lendemain. Alors nos demandes sont soit de remettre en place les deux promenades par jour, soit de prolonger le temps de la promenade de l'après-midi.
Après les protestations que nous avons réalisées ces dernières semaines, le directeur adjoint, M. Prasco, nous avait demandé du temps pour faire quelques ajustements et pour réfléchir sur nos demandes concernant le week-end. Pendant ce temps, quelques blocages ont été réalisés. Le week-end du 16 avril, nous étions 6 personnes du côté condamné et 34 du côté prévenu, encouragées par le soutien reçu de l'extérieur. Ce samedi-là, nous avons entendu les cris des manifestants et manifestantes au loin, et de l'intérieur, nous avons essayé de nous faire entendre, ce qui nous a valu d'être escortés jusqu'au parloir sous la menace d'interrompre nos parloirs si nous persistions à crier. Nos proches nous ont transmis avec joie l'ambiance de l'extérieur. Pour eux aussi, c'est important de sentir que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Et pendant ce temps, la répression a continué. La commission d'aménagement des peines du mois d'avril est passée. Des permissions de sortie et l'octroi de remise de peine ont été refusées pour plusieurs femmes ayant participé au blocage. Après, il s'est avéré qu'il y avait des documents manquants ou d'autres raisons pour ces refus, mais ils se sont bien chargés de noter les blocages comme en étant la cause. De notre côté, nous avons décidé de rester systématiquement les 2 heures en promenade, pas une minute de moins, ce qui nous coûte des tensions et des rapports au quotidien. Mais au moins, nous avons constaté que les matones ne se permettent pas de raccourcir autant le temps de la promenade.
Finalement, le résultat des profondes réflexions de la direction est arrivé et les ajustements se sont traduits par la mise en place d'un premier appel et la possibilité de réintégrer la promenade si on se trouvait ailleurs, à condition qu'il reste au moins 20 minutes avant la fin. Concernant le week-end, maintenant les samedis et dimanches nous sortirons les après-midi de 15h à 17h. C'est-à-dire que maintenant nous passerons toute la matinée enfermés. Ce changement n'arrange en rien notre situation et pire, nous montre que la direction reste fixée sur le système de promenade unique de 2 heures. Pas étonnant avec ces gens, c'est impossible de raisonner.
Nous parlons des conditions de vie dignes, ils parlent de règlement. Nous parlons d'entraide, de partage, eux parlent de trafic. Nous parlons d'humanité, ils parlent de textes de loi. Nous parlons de besoin de communiquer, de discuter, de se rencontrer. Eux parlent de sécurité et d'isolement. Ils font leurs lois, ils créent des systèmes de contrôle qui naissent des besoins de réprimer les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est la machine qui s'alimente elle-même. C'est en nous mettant à bout et en créant des tensions qu'ils justifient leurs dérives sécuritaires et répressives. Nous continuerons à nous battre pour des conditions dignes à l'intérieur, comme vous le faites à l'extérieur. En espérant vous entendre à nouveau le samedi prochain, nous envoyons une forte accolade, enragée et solidaire, à toutes celles et ceux qui luttent et résistent. Des prisonnières de la MAF de Fleury-Mérogis.
Et maintenant, on va interviewer un type qui était devant la prison pour nous raconter le rassemblement qui a eu lieu samedi devant la prison de Fleury-Mérogis. Et comme il faut faire des petites bidouilles techniques, on fait notre première pause musicale avec une meuf qui chante du reggae. Et oui, c'est original sur notre émission. Et c'est comme ça. On revient tout de suite.
Oui, bonjour.
Allô, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu, 102.2 FM et Radio Audio à Saint-Étienne, 89.5. Et on vient de lire une lettre des détenus mobilisés à Fleury-Mérogis, dans le quartier Femmes. Et donc vous étiez là au moment de la manifestation dont elle parle dans la lettre. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ?
En fait, il y a eu deux manifestations, il y a eu deux rassemblements. Tu m'entends ?
Oui.
Ouais. Il y a eu deux rassemblements, hein, deux samedis de suite. Le premier, ben, je ne sais pas, il y avait 70 personnes devant la prison, des femmes, donc avec beaucoup de bruit, des banderoles, etc. Donc des familles qui étaient là, qui rentraient, qui ont immédiatement dit aux filles qu'elles allaient voir. Qu'il y avait tout ce monde-là qui était dehors pour en soutien quoi à leur bagarre. Ouais. Et puis ensuite, là, personne n'a fait chier, l'administration pénitentiaire a absolument pas réagi. Ils n'ont rien fait, ce qui est très rare quand on va devant Fleury.
Vous avez là, de la chance, du coup,
de rester tranquille. Et puis, donc, on est resté là deux bonnes heures.
On ne t'entend pas bien, ça coupe.
Ça coupe. Tu nous entends toujours ?
Ah, on a perdu la communication, on dirait.
On a perdu la connexion avec les camarades.
Avec notre envoyé spécial de la région parisienne. On essaye de le rappeler. Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et Radio Audio 89.5 pour l'émission La Petite Cuillère, une émission anticarcérale. Si vous voulez nous envoyer des infos qui viennent de l'intérieur ou faire passer des messages à des prisonniers et prisonnières, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, on a un répondeur, le numéro est sur notre blog, ou alors on a aussi une adresse mail, c'est lapetitecuillère tout attaché @riseup.net. Et si vous êtes aussi proche de prisonniers et prisonnières et que vous voulez faire sortir des choses, des infos de la tôle, vous pouvez nous le dire.
Ok, donc merci.
Hop. Ah, nous avons retrouvé notre correspondant spécial.
Est-ce qu'on peut reprendre ? On est à l'antenne et on disait que sur le premier rassemblement, l'administration pénitentiaire vous avait laissé à peu près tranquille et que vous aviez pu rester 2 heures.
On était resté 2 heures et ensuite... On est allé à la maison d'arrêt des hommes qui est juste à côté, la très grande maison d'arrêt des hommes, hein, puisque là il y a plus de 4000 prisonniers. Et puis là aussi on a pu discuter avec les familles, leur raconter, rester. Et donc voilà. Ensuite on est revenu encore une fois à la maison d'arrêt des femmes et puis on est parti. Le 7 mai, donc il y a très peu de temps, là samedi dernier, on a recommencé. Là, on était un petit peu moins nombreux, on était une bonne quarantaine, mais de la même façon, hein, on a pu rester et discuter avec les gens qui se trouvaient là et faire du bruit. Là, les filles nous ont entendus puisqu'on l'a su par la suite, et donc ça, c'était une bonne chose. C'est une bonne chose parce que du coup, ben, ça leur remet la pêche à l'intérieur, parce que pour elles, c'est pas simple, hein. Puisque ça fait maintenant plusieurs semaines que ça dure depuis le 4 avril, et que depuis le début, l'administration pénitentiaire, la direction, les matons, etc., font tout ce qu'ils peuvent pour faire pression, pour qu'elles arrêtent, et faire pression pour eux, on connaît, hein, ça consiste à convoquer les filles une par une, à leur faire du chantage, à leur dire si vous continuez, vous pouvez dire au revoir à vos remises de peine, vous pouvez dire au revoir à votre demande de transfert, vous pouvez dire au revoir, etc., etc., à vos permissions. Et effectivement, il s'est trouvé qu'il y a une commission d'application des peines qui se réunissait là il y a quelques jours. Il y en a une par mois, hein. Et donc toutes les filles qui avaient participé au blocage des promenades, se sont vues refuser leurs demandes, qui étaient pour la plupart des demandes de permission.
Ben ouais, bien sûr.
Et sous des prétextes complètement bidons, mais elle savait très bien pourquoi c'était fait. Ils ont concrétisé leur chantage. Et ce qui fait que il y a des filles qui laissé tomber forcément, hein, en disant c'est trop cher payé.
Et ouais, du coup.
Et puis d'autres qui ont continué, mais moins du coup, hein. Moins du côté des condamnés. À la fin, elles étaient plus que 6 ou 7. La dernière journée de blocage, elles ont réussi à être 9 côté condamnés et une trentaine côté prévenus. Les mineurs aussi ont vachement suivi, en fait. Elles ont même envoyé une pétition parce que pour elles, c'est ce régime, enfin comme pour tout le monde, hein, mais ce régime qui leur a été imposé d'une promenade par jour, quand t'as 14 ans, 15 ans, c'est insoutenable. C'est-à-dire que tu peux très bien passer quasiment 48 heures sans sortir. Et si jamais, ça c'est bien expliqué dans les lettres, mais je le redis, c'est on se rend bien compte, quoi. Si jamais t'as une activité dans la journée et qu'elle t'empêche d'aller à la promenade unique, eh ben ça veut dire que t'as toute la journée où tu sors pas. Et si le lendemain t'as encore autre chose qui t'empêche, ça peut durer 2-3 jours comme ça, hein. Sans foutre le nez dehors. Et donc ça veut dire que tu respires jamais, quoi. Déjà, tu respires pas beaucoup, mais là, c'est une asphyxie totale. C'est encore pire que les conditions actuelles du quartier d'isolement, comme c'était, quoi. C'est où il y avait jusque-là 2 promenades par jour quand même. Là, maintenant, c'est un truc de fou. Et tout ça pour que les matones, elles aient encore moins de travail à faire. Alors, c'est déjà, elles ne seront pas étouffées par le boulot, à part faire chier, elles n'ont pas grand-chose à foutre. Mais ça leur permet comme ça d'économiser tout un mouvement pour elles, où ça les oblige à aller ouvrir les cellules une par une pour que les filles puissent sortir en promenade.
Ok.
Et dernier épisode en date, donc c'est le dernier blocage, il a eu lieu samedi dernier. Le même jour, il y avait donc la manif devant. Et le dimanche, on a signifié à 4 d'entre elles qu'on a pointé comme étant les meneuses, parmi lesquelles il y avait 3 prisonnières basques et une autre. Ils leur ont signifié un passage au prétoire en commission disciplinaire pour blocage de promenade. Et elles sont passées donc très très rapidement, elles sont passées hier au prétoire. Elles n'ont absolument pas eu le temps, surtout pour les Basques, de faire venir des avocats qui viennent de loin, hein, qui en général se déplacent, mais là qu'ils ne pouvaient pas. Donc ça veut dire avocat commis d'office. Et puis, sans prévenir pour la dernière, sans prévenir même, sans prendre la peine de vraiment prévenir son avocate et donc de lui coller aussi un avocat commis d'office. Et elles ont toutes pris 14 jours de mitard hier. C'est-à-dire que là, ça y est, elles sont parties pour 14 jours de mitard.
Et
comme c'était 4 personnes très moteurs dans cette histoire, ils savent très bien, ça va leur permettre de mettre un coup au mouvement, qui va pas forcément s'arrêter. D'ailleurs, une fois qu'elles seront dehors, ni même, j'espère bien, pendant qu'elles sont dedans, parce que j'espère que les filles vont réagir. Les filles de Fleury et d'autres ailleurs, si elles entendent, et des prisons d'hommes de la même façon, hein, parce que cette histoire de réduction des temps de promenade, c'est une directive nationale, hein. C'est déjà appliqué dans la maison d'arrêt des hommes de Fleury, où ils ont fait passer ça sous prétexte de travaux à faire dans la tôle, enfin, etc. C'est appliqué à Réau. C'est une prison qui est aussi dans la ceinture parisienne. Et je pense que c'est déjà appliqué dans d'autres prisons. Je ne sais pas, je ne sais pas encore, mais il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Et en tout cas, c'est une politique nationale qui est sûrement due à la pression des syndicats de matons qui n'arrêtent pas de gueuler contre, on sait bien, leur histoire de manque de personnel et donc du coup de surcharge de travail, et ben comme ça au moins ils ont obtenu gain de cause là-dessus, quoi. Donc c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des prisonnières et des prisonniers, et qui vont, et que ben voilà, ils vont appliquer tranquillement, successivement, s'il se passe rien, s'il n'y a pas de résistance à l'intérieur, et puis avec un soutien à l'extérieur, quoi.
Et quelle forme de soutien c'est possible de faire
Je t'entends mal.
Quelle forme de soutien c'est possible de faire depuis Lyon, par exemple?
Il faut que tu répètes, je m'excuse, mais je t'entends très très mal.
C'est normal. Alors, attends, 2 secondes. Allô. Quelle forme de soutien on peut faire de Lyon pour...
De Lyon, pour les gens qui sont à l'extérieur, il y a une adresse, tu sais, avec le directeur, avec l'adresse du directeur de Fleury.
Oui.
Okay. Qui est dans la lettre.
Ouais. Du coup, d'envoyer des lettres au directeur de Fleury.
Envoyer des lettres. Il faut envoyer des fax et des lettres. Il faut les gaver de ça, en disant, en affirmant la solidarité, et puis en disant qu'il faut qu'elle sorte du mitard tout de suite, etc. Et que soit rétabli le système des promenades tel qu'il existait jusque-là.
Mmh.
Ça c'est déjà bien, parce qu'ils sont emmerdés avec ça, ils ont toujours l'impression du coup que ça prend une ampleur nationale, quoi, et bien expliquer que c'est, ça vient de Lyon et que ça vient, c'est pas juste un petit groupe de Paris, quoi.
Mmh. Et pour faire un soutien aux prisonnières, pour leur dire que des gens savent ce qui se passe ailleurs qu'à Paris.
Alors, pour les prisonniers qui seraient, pour les prisonnières ou les prisonniers, ouais, qui seraient là dans d'autres prisons.
Ouais.
Eh ben alors, nous, c'est difficile de dire à l'extérieur ce qu'il faut que les prisonniers, qu'est-ce qu'il faut que.
De leur dire qu'on les soutient, pas leur dire leur exprimer un soutien aux prisonnières.
De leur écrire. Alors ce que je peux faire, c'est mettre, c'est vrai qu'on n'a pas mis, parce que c'était pas mis comme ça, mais de toute façon elles sont passées au prétoire. Donc ce que je peux faire demain, c'est donner, c'est mettre sur, ou envoyer par texto, comme ça, là je peux pas le faire tout de suite, il faut que je retrouve l'adresse exacte, et le nom surtout. Mais ce que j'ai envoyé par texto, vous envoyez par texto son prénom, son nom, et comme ça vous pourrez le donner à la prochaine émission.
Super. Ok, super, merci. Merci beaucoup.
De rien.
À bientôt.
À bientôt, salut.
Et voilà. Vous êtes toujours sur La Petite Cuillère, sur Radio Canus 102.2 FM et sur Radio Dio 89.5, une émission contre toutes les prisons, en solidarité avec vous tous qui êtes enfermés dans les tôles. Et on continue un peu en heureux sur ouverture sur la Grèce et puis l'Italie avec Lesbos. Qu'est-ce qui se passe ?
Avec Lesbos d'abord, parce que... Lesbos, c'est une île à l'est de la Grèce, entre la Turquie et la Grèce sur la mer. C'est une île, et de fait, là-bas, il y a énormément de personnes migrantes qui sont enfermées sur un camp, et du coup, c'est un peu un scandale européen en ce moment. Mais alors, il y a un témoignage qui circule un peu, et dont on n'a pas trop parlé, et que j'ai envie de vous parler ce soir. C'était le 26 avril, c'était le vice-ministre grec de l'immigration, il s'appelle Mousalas. Il est venu visiter le camp de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce pour jeter un coup d'œil sur la situation dans le centre. À Moria, il faut savoir que les mineurs, puisqu'il y en a beaucoup, ils ne peuvent pas officiellement être maintenus en prison. Donc on les laisse sortir une demi-heure par jour. C'est déjà un truc super bizarre, mais là dans la situation actuelle, tout est super bizarre. sur l'enfermement des migrants en Europe en général. Et ces 30 minutes à l'extérieur représentent beaucoup, en tout cas pour ces mineurs, comme on l'imagine. Et le 26, en fait, à cause de la visite du ministre grec de l'immigration, eh ben, elles n'ont pas été accordées l'heure de sortie. Et du coup, les personnes mineures enfermées n'ont pas tardé à être vraiment en colère. Alors, elles ont commencé à lancer de l'eau sur le vice-ministre, qui a été évacué de la prison. Mais ils ne s'en sont pas arrêtés là. Et ils ont commencé à se révolter en foutant le feu à des objets, des poubelles, du bazar. La police, du coup, leur a tapé dessus. Vers 4 heures de l'après-midi, la révolte a éclaté. Alors là, avec, sur la porte principale de Moria, avec des incendies et des jets de pierre contre les flics anti-émeutes qui étaient ramenés en renfort. Les flics anti-émeutes étaient à l'extérieur du camp. Et quand ils ont essayé de rentrer, ils ont dû se retirer à toute vitesse parce que ils se faisaient juste trop canarder. Ils sont partis bien. Avec les traducteurs, avec les agents de Frontex, l'organisation européenne de gardiennage des frontières, et avec les personnes qui travaillaient dans le centre. Du coup, tout ce monde-là s'est été évacué et les émeutes se sont étendues à différentes sections de la prison. Alors là, c'était majeur, mineur, tout le monde ensemble, pour briser le grillage, sortir du camp et aller à la confrontation avec la police anti-émeute à l'extérieur. Celle-ci, la police anti-émeute, a été rapidement dépassée par le nombre et par son manque de préparation. Et pendant plusieurs heures, il y a eu des affrontements assez durs. Les réfugiés qui étaient restés à l'intérieur ont pris le contrôle du bureau qui contrôle les haut-parleurs de l'atoll. Et du coup, l'atoll criait « Liberté ». Dans toutes les langues, et ils sont parvenus à entrer dans les bureaux là, vraiment de la Zonze, où les documents, les ordinateurs, tout ça, ça a été tout détruit. La nuit qui a suivi, les gens ont commencé à monter dans la partie supérieure des bâtiments pour foutre le feu, et il y a eu des tentatives encore de détruire plus de grillages de l'extérieur de la tôle. Et finalement, la police est parvenue à rentrer dans le centre, à base de grenades assourdissantes lancées à courte distance, à base de vraiment frapper le monde, et il y a eu au moins 5 blessés graves du côté des réfugiés. On ne sait pas ce qui s'est passé ensuite, parce que juste les flics, ils ont fait évacuer la zone de tous les témoins qu'il y avait autour. Et voilà. Mais révolte là, pas du tout préparée, hyper... comme ça, qui est parti d'un seul coup sur la visite du ministre de l'immigration grec, qui aurait mieux fait de rester chez lui ce jour-là.
Mais après, il faut dire que là, en ce moment, c'est vraiment tendu du côté de la Macédoine, de la Grèce, sur les îles, parce que c'est des camps militaires où sont enfermés des réfugiés qui veulent aller en Europe, et où, par exemple, sur la frontière macédoine, il y a un camp de 16 000 personnes. Ouais. Écoute, c'est vraiment immense. Des conditions de. D'ailleurs, c'est les gens, ils sont enfermés, ils sont dans des camps militaires, et ils sont sinon déportés en Turquie, du coup.
16 000, c'est presque la population de Villefranche-sur-Saône à côté, quoi.
Ouais.
C'est énorme.
Et on continue, en fait, avec Lampedusa, où c'est pareil, c'est sur des brèves sur l'immigration et la situation des migrants qui se retrouvent enfermés dans des tôles. Lampedusa, c'est une île italienne de 20 km² au sud de la Sicile, mais très proche de la Tunisie, où de nouveau, nombreuses personnes arrivent là, parce que c'est les îles, c'est les points faciles d'entrée en Europe. Et pareil, la même situation qu'à Lesbos, il y a depuis 1998 un centre qui sert au début à regrouper les personnes migrantes qui peuvent arriver de naufrages en mer, dans des situations catastrophiques où ils ont très très peu de choses, et qui sert aussi à les parquer. Il y a eu plusieurs évolutions, et les dernières qu'on connaît de ces centres parquage en 2008, ça s'appelait le centre d'identification et d'expulsion, une prison qui a pour but en fait d'enfermer les étrangers et les étrangères pour qu'ils n'embêtent pas les braves gens de l'île. C'est moi c'est moi qui le dis, mais c'est vachement ça aussi hein, parce que ça fait que les îles, en fait, elles connaissent des situations qu'elles ne connaissaient pas avant. Mmh. Et aussi de pouvoir facilement identifier et trier les bons et mauvais migrants qui déboulent sur l'île, et de pouvoir les emmener en Sicile et dans d'autres régions d'Italie si ça se fait. Du coup, il les trie entre les personnes qui peuvent demander leur demande d'asile et ceux qui sont des migrants économiques et qui sont directement réexpulsés, mais des fois, ils ne sont même pas expulsés. Et en fait, ces lieux-là sont des endroits de résistance des migrants et des migrantes, comme on l'a entendu à Lesbos en Grèce, où il y a régulièrement des grèves de la faim, des émeutes. Le centre, il a déjà brûlé deux fois en 2009 et en 2011 suite à des révoltes contre des expulsions massives où d'un seul coup, tout le monde, ils sont renvoyés, on ne sait pas où, en Afrique, posés dans des endroits ou alors envoyés dans les pays, mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Ils ont encore affiné en fait, leur technique, les États européens dirigeants avec Frontex. C'est-à-dire que là, ce qu'ils sont arrivés, ça s'appelle hotspot, c'est le dernier cri un peu de l'identification biométrique des migrants. Du coup, les gens, ils sont dans ce centre, dans cette île militarisée, qu'on répète, de 20 km carrés. Et ils procèdent à une identification, à la photographie des gens, l'enregistrement et la prise d'empreintes digitales. Qui fait que qui sépare les personnes ayant le droit d'asile et les migrants dits économiques, toujours la même histoire, mais c'est juste que c'est un stade au-dessus de perfectionnement technologique. Et avec en fait les accords Dublin, tous les migrants et les migrantes savent que s'ils donnent leurs empreintes en Italie, ils seront obligés de faire leur demande d'asile en Italie, alors qu'en fait c'est pas forcément le pays où ils ont envie de rester. Du coup, les gens refusent de donner leurs empreintes digitales et sont victimes de répression. Et ils ont écrit un communiqué vendredi 6 mai, et je trouve ça assez précieux de vous le lire, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut entendre leurs paroles, de pourquoi ils luttent en fait. Et du coup, c'est assez classe, les réseaux qui se mobilisent pour récupérer leurs paroles et la faire diffuser un peu de partout en Europe. Et voilà, on va lire ce qu'ils disent. Nous sommes des réfugiés arrivés en Europe pour échapper à la guerre. Nous venons de Somalie, d'Érythrée, du Darfour, du Yémen, d'Éthiopie. Nous sommes traités de manière inhumaine au sein du centre de Lampedusa. Celles et ceux qui refusent de laisser leurs empreintes sont victimes de violences par les forces de l'ordre. Si nous ne laissons pas nos empreintes, les opérateurs en charge de la gestion du centre nous agressent verbalement et physiquement. Ils nous discriminent lors de la distribution des repas et nous interdisent de jouer au foot dans la cour. Les matelas sont remplis de l'eau stagnante des salles de bain, ce qui peut nous causer des maladies. Il y a des mineurs, des femmes enceintes et des personnes avec des problèmes de santé qui ne reçoivent pas de traitement adéquat. C'est le thème ce soir de l'émission, d'empêcher les gens de se déplacer et de se rencontrer et de se mobiliser entre eux.
Et d'avoir des conditions de vie décentes aussi.
Ouais, c'est le thème de l'émission. Nous sommes à Lampedusa, certains depuis 2 mois, d'autres depuis 4 mois. Tant que nous n'aurons pas la possibilité de quitter cette prison vers un lieu garantissant des conditions de vie plus dignes, nous refusons de laisser nos empreintes. Nous sommes venus par nécessité de liberté, d'humanité, de paix, ce que nous pensions trouver en Europe. Nous ne voulons pas être enfermés dans une prison alors que nous n'avons commis aucun crime. Nous voulons une vie digne et obtenir la protection humanitaire au regard des situations dans les pays que nous fuyons. Laisser nos empreintes dans ces conditions nous prive de la liberté de choisir notre avenir, notamment de pouvoir rejoindre nos proches installés dans d'autres pays. Nous voulons quitter Lampedusa et obtenir la protection humanitaire. Nous sommes nombreuses et nombreux à être en grève de la faim et nous n'arrêterons pas tant que les autorités n'auront pas répondu à nos demandes. Les autorités, qu'elles soient italiennes, françaises ou autres, c'est un problème européen.
Les autorités en général, de toute manière, c'est un problème.
Voilà. Et ben, on continue, on revient un peu sur
la région parisienne.
Ouais, c'est ça. On fait des petits détours comme ça.
Et oui, on fait des allers-retours.
Rennes, Fleury, Mérogis, c'était pas très loin en fait. D'ailleurs, on remercie vraiment le camarade de nous avoir d'avoir dit son témoignage, là, raconter tout ça. C'était super chouette.
Ouais, et ben maintenant on va parler un peu de Fresnes, parce qu'à Fresnes, il y a un petit mouvement qui a commencé à se lancer aussi. Ce qui se passe, voilà, bon, alors j'ai qu'à vous dire les dernières choses qui se sont passées, c'est qu'il y a une quarantaine de prisonnières de Fresnes qui ont bloqué la promenade pendant 10 minutes le 2 mai autour d'une série de revendications concernant les conditions de détention en général. Du coup, ça ressemble pas mal à ce qu'elles font à Fleury. Bon, c'est pas par rapport aux promenades uniques ou alors c'est pas ce qu'on nous rapporte comme revendication. Elle, c'est plutôt autour de problèmes d'hygiène, de la fin des fouilles à nu obligatoires à chaque mouvement, droit aux visites en UVF, en unité de vie familiale, amélioration des conditions pour les prisonnières enceintes et les prisonnières qui travaillent, traitement respectueux de la part des surveillantes envers les prisonnières. Et il y a trois petits points, parce qu'on n'a pas réussi à obtenir la plateforme de revendication complète. C'est ce que nous dit le collectif Bagoaz, qui est un collectif basque, qui lutte beaucoup pour les droits des prisonniers, prisonnières et des exilés basques notamment. Donc je vous dis un peu ça, après je vous lirai un petit bout d'un communiqué de presse qu'ils ont fait. Avant d'avoir bloqué la promenade pendant 10 minutes, elles avaient déjà écrit une lettre signée par une quarantaine de prisonnières au Dirlo de la Tôle, et la lettre est restée sans réponse. C'est pour ça qu'elles ont décidé de passer à la vitesse supérieure en bloquant les promenades. En représailles, bien sûr, parce que en tôle, ça se passe toujours comme ça. Et au prétexte qu'il y en a une qui était supposée être la meneuse, la prison a conduit le jour même la prisonnière basque Itziar Moreno dans une cellule d'isolement où elle se trouve depuis. En solidarité avec elle, il y a au moins deux autres prisonnières basques de Fresne, Ekine Eizagirre et Iratxe Sorzabal, qui se sont rendus volontairement au mitard pour soutenir leurs camarades. Maintenant, je vais vous lire le petit morceau du communiqué de presse de Bagoaz. La mesure d'isolement appliquée à Etier Moreno nous inquiète particulièrement, car elle n'est pas limitée dans le temps et peut s'éterniser selon le bon vouloir de la direction. Celle-ci vient d'ailleurs de la porter à 3 mois, mais peut aussi la renouveler. Nous rappelons que l'isolement, a fortiori prolongé, entraîne de graves séquelles physiques et psychologiques pour celles et ceux qui y sont soumis, et qu'il est souvent pointé par les organisations internationales de défense des droits humains comme « torture blanche ». Nous dénonçons également l'utilisation de telles pratiques brutales et arbitraires en réponse à de simples demandes de respect des droits essentiels des personnes portées par un grand nombre de prisonnières. Nous constatons enfin que les atteintes à de tels droits se multiplient ces derniers temps dans les prisons françaises, comme nous avons pu le voir à Fleury ces dernières semaines. Hop, ils font un petit clin d'œil à Fleury Mérogis. Voilà pour le communiqué. Et par la suite, on apprend qu'il y a aussi 5 prisonniers politiques basques, pour le coup, qui se retrouvent à la maison d'arrêt des hommes de Fresnes, du coup, côté hommes, et qui sont entrés en grève de la faim illimitée mardi il y a 2 jours, là, en soutien à leurs camarades femmes. De leur côté, les prisonnières basques qui s'étaient fait envoyer au mitard en solidarité, elles y seraient toujours, a priori. Et tout le monde a fait savoir qu'ils ne cesseraient leur mouvement que quand la mesure d'isolement appliquée à Etier Moreno serait levée. Pour les autres revendications, on n'a pas vraiment trouvé ce qu'il en était. Je ne sais pas s'il continue à y avoir des blocages de promenade ou pas. On espère en tout cas qu'elles vont garder la pêche et le courage de lutter. Pour les soutenir, il ne faut pas hésiter à envoyer, comme pour celle de Fleury Mérogis, une petite lettre au directeur de la tôle. Un timbre, ça ne coûte pas grand-chose. Et en réalité, plus il y a de lettres, et plus ça les emmerde, et plus ils ont l'impression d'être regardés et de ne pas faire les choses en toute impunité. C'est pas mal. On vous mettra un petit exemple de lettre sur le blog et j'ai qu'à vous donner quand même tout de suite l'adresse au cas où vous ayez de quoi la noter vite fait. Le directeur de la tôle de Fresnes, il s'appelle Monsieur Scotto, S-C-O-2-T-O, directeur de la maison d'arrêt de Fresnes. L'adresse c'est 3 Allée des Tuyas, 94 261 Fresnes, CEDEX. N'hésitez pas à envoyer plein de lettres, plein de lettres, plein de lettres, plein de lettres. Il faut les soutenir, toutes ces prisonnières et tous ces prisonniers qui luttent à l'intérieur. Il faut essayer de faire avancer les choses avec eux, de comme on peut, ou d'où on peut. Et puis, tout petit soutien de l'extérieur et toute petite chose qui montre qu'ils ne sont pas isolés et seuls derrière les grands murs, ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à écrire.
Et ça change pour une fois des mobilisations et des blocages des matons.
Et ouais, grave, ça fait plaisir.
On est toujours sur la petite cuillère.
T'as qui ?
La photomaton.
On vous l'avait annoncé début avril, un prisonnier de Fleury-Mérogis en région parisienne avait mis le feu à son matelas. C'est un moyen de lutte et de protestation bien connu dans les tôles. L'incendie s'est développé, les matons n'ont rien fait et le prisonnier en est mort, piégé par les femmes, les flammes. La paix, comme toujours pour camoufler ses crimes et morts suspects, disait que c'était un suicide. La famille n'y a pas cru et a porté plainte. Les premiers éléments montrent qu'il a bien mis le feu à son matelas, mais on nous dit que Mamadou était arrivé la veille et avait refusé de se soumettre à la radiographie obligatoire pour les arrivants. Cet incendie, c'est un moyen de protester. En proie aux flammes, Mamadou aurait alors appelé à l'aide plusieurs minutes avant que les secours n'interviennent. Un délai estimé à une dizaine de minutes par la famille qui s'est portée civile. Une information judiciaire a été ouverte le 18 avril par le procureur de la République d'Evry. Bon courage pour la lutte judiciaire pour les proches de Mamadou.
Et le 6 mai, il y a une nouvelle plainte qui a été déposée, portée par l'avocate d'un prisonnier de la cellule voisine pour non-assistante à personne en danger et délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent. Alors l'avocate du voisin de Mamadou, elle nous dit « Mon client s'est vu mourir, il a donné l'alerte quand il a vu la fumée entrer dans sa cellule, mais personne ne lui est venu en aide. » Alors il a pris son portable, heureusement qu'il en avait un au passage, hein, et il a appelé sa copine. L'avocate continue de raconter en disant « Cette dernière m'a contactée pour me prévenir qu'un incendie était en cours. » Au bout du fil, maître Sarah Moguer-Pogliac, c'est le nom de l'avocate, n'en croit pas ses oreilles. Une cellule de la maison d'arrêt est en proie à un incendie et son client, victime de la fumée dans une cellule voisine, appelle en vain à l'aide. « J'ai essayé d'alerter la maison d'arrêt, mais je n'ai pas réussi », reprend-elle. « J'ai donc appelé le parquet, puis j'ai envoyé un fax à la prison. Quand j'ai fini par avoir quelqu'un à la maison d'arrêt, leur seule préoccupation était le téléphone portable de mon client. » Ça prouve bien de quoi il s'occupe, hein. Sa vie est en jeu et eux pensent qu'il a un téléphone portable. Bon, en tout cas, c'est une affaire à suivre et on souhaite beaucoup de courage et de force à toutes celles et ceux qui luttent pour que la lumière soit faite sur les conditions de détention et tout ce qui va avec. On pense bien à la famille, on pense aussi à toutes les autres familles et tous les autres proches. On souhaite beaucoup de courage et de force à toutes celles et ceux qui luttent pour que la lumière soit faite sur les conditions de détention et tout ce qui va avec. Ça, je l'ai déjà dit. Et aussi, beaucoup de courage et de force à toutes celles et ceux qui les subissent au quotidien.
Et maintenant, on part dans le nord-est de la France, à la tôle de Montmédy, dans la Meuse, où mardi 10 mai, une femme de 60 ans a rendu visite à son fils au parloir de la tôle de Montmédy. Malade, elle était assistée d'une bouteille d'oxygène pour pouvoir respirer. Les matons n'ont rien voulu savoir et l'ont privée de sa bouteille sous prétexte qu'elle n'avait pas ordonnance avec elle. Ils lui ont dit « Tu rentres sans ta bouteille ou tu vois pas ton fils ». Et ils osent appeler ça « donner le choix ». Quelques minutes plus tard, au parloir, elle est décédée en face de son fils incarcéré. On est jeudi et apparemment aucune enquête n'a été ouverte.
Et à Marseille maintenant, c'est un prisonnier des Baumettes qui attend d'être transféré à la maison d'arrêt de Béziers depuis plus de 9 mois pour le rapprocher de là où il sera jugé, mais aussi d'où se trouvent ses proches. La situation n'est pas vraiment exceptionnelle. Mais là, l'autorisation du juge a été donnée en août dernier et toujours rien ne se passe. L'embrouille, c'est qu'il est en préventive et que depuis la loi pénitentiaire de 2009, c'est plus les keufs mais les matons qui doivent transférer les prévenus. Oui, mais quoi alors ? Ben, les matons ont simplement décidé qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette loi, alors ils ne l'appliquent pas et disent que c'est à la gendarmerie de le faire. Le plus fou, c'est qu'il est régulièrement transporté jusqu'à Perpignan depuis Marseille pour des auditions, au moins 5 ou 6 fois depuis le début de sa mise en préventive, sachant que la tôle de Béziers est à moins de 100 km de Perpignan et qu'on compte environ 700 bornes aller-retour pour un Marseille-Perpignan. Ben, pour des gens qui veulent plus de moyens, ils sont pas bien gardants à la dépense, les matons quand même. Et c'est qui trinque ? Eh ben, c'est toujours les mêmes.
Le bruit qui court.
Le 30 avril, 3 détenus de la tôle de Réau près de Paris ont pris en otage un maton. La prise d'otage a duré quelques heures et on ne connaît pas les revendications des détenus.
Dimanche 1er mai, dans l'Allier entre Roanne et Nevers, à la tôle de Moulins-Isère, un homme aurait été retrouvé pendu dans sa cellule. Il était libérable dans quelques mois.
Dans la nuit du 1er au 2 mai, c'était un cas similaire en Bretagne, à Saint-Brieuc, où un jeune homme se serait suicidé selon l'administration pénitentiaire, alors qu'il venait même d'être papa, qu'il sortait dans peu de temps et qu'il avait trouvé un travail. Étrange, non ?
Dans la nuit du 1er mai, toujours, la maison d'arrêt de Montauban, une fourgonnette a été incendiée devant l'entrée principale de la tôle. L'attaque n'a pas été revendiquée.
Et le 2 mai, un maton a eu la mauvaise idée de refuser l'accès à la cabine téléphonique à un détenu mineur de la prison de Villepinte. Le maton s'est fait casser le nez. Quand on dit qu'il faut autoriser les téléphones portables dans les tôles...
Et c'était le 2 mai, le même jour, un record battu à Secdin, une tôle dans le nord de la France. 120 colis ont été envoyés dans la cour de promenade en une journée. 50 le matin, 60 l'après-midi, par-dessus le mur de centre dans la tôle. Big up.
50 et 60, ça fait 110, ça fait pas 120. Hein.
Ok, 70-50.
Et vendredi 6 mai, et on continue, oh là là, dans la tôle de Villepinte, encore une fois, une centaine de détenus ont refusé de regagner leur cellule à la fin de la promenade. Ils n'ont accepté de rentrer, dans les bâtiments qu'à 20h passées. Cette protestation aurait plusieurs causes, l'accès à la cantine, l'achat de produits de la vie quotidienne, les sanctions disciplinaires prises récemment, et on n'en sait pas plus, mais sûrement d'autres choses.
Et samedi 7 mai au matin, un prisonnier du centre pénitentiaire de Perpignan, dans le sud-ouest, a porté des coups de poing et de genoux à 5 matons qu'il avait immobilisés, va savoir pourquoi, alors qu'il était à la douche, puis ils l'ont conduit menotté au quartier disciplinaire.
Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir, les détruire un petit peu. La vie m'a ongle, une rubrique sur toutes les évasions.
Du 1er au 2 mai, une quarantaine de détenus se sont évadés de la tôle de Tuléar à Madagascar. On ne sait pas trop comment ils s'y sont pris, mais la majorité court toujours.
Ensuite, c'est 3 personnes qui se sont évadées du centre de rétention administrative de Nîmes dimanche 8 mai. Après s'être procuré le matériel nécessaire, ils ont simplement scié les barreaux de leur cellule à l'ancienne et ils courent toujours, bravo. La veille, ça n'a peut-être rien à voir, peut-être pas. Enfin, ça a peut-être quelque chose à voir, peut-être pas. Bon, vous le prenez dans le sens que vous voulez. En tout cas, un rassemblement avait eu lieu devant le même CRA à Nîmes. Une centaine de personnes a répondu à l'appel avec pétards, tambours et casseroles. Le grillage du CRA, du centre de rétention administrative, a subi plusieurs assauts de manifestants, mais a résisté. Il a donc été recouvert de peinture. Ce rassemblement s'inscrit dans une journée internationale de solidarité avec les migrants et les migrantes, et une manifestation a eu lieu le même jour à Coquel, près de Calais.
Et c'était lundi 9 mai, un détenu de Rennes a tenté sa chance. En effet, il a été transféré à l'hôpital de la Cavale Blanche, ça ne s'invente pas. Et donc, il a tenté intelligemment de s'évader du cabinet médical. Mais malheureusement, les matons l'ont rattrapé dans les couloirs.
Et malheureusement, c'est la fin de la petite cuillère émission contre toutes les prisons. On vous rappelle que c'est possible de laisser des messages à vos proches qui sont dans les tôles de la prison, des prisons de Lyon. On sait qu'on
est... Et de Saint-Thé.
Et de Saint-Thé. Oui, exactement, ouais. Parce qu'on est rediffusé en direct sur Radio Dio à Saint-Étienne 89.5.
Salut aux camarades, par ailleurs.
Merci de nous rediffuser. Et voilà, du coup, on sait qu'à Saint-Étienne, on est entendu à la Talaudière, qu'à Lyon, on est entendu dans certains endroits de la prison de Corba. Il y a aussi la prison pour mineurs de mes yeux. Il y a le CRA, l'UHSA, et peut-être aussi qu'on est entendu à la centrale de Saint-Quentin, Falavier en Isère, mais on n'a pas de réponse des prisonniers et prisonnières qui sont à l'intérieur. Du coup, si vous voulez nous appeler, on a un répondeur. C'est le numéro, il est toujours sur répondeur, il faut appeler au 07 81 35 93 71. Et sinon, si vous voulez, du coup, c'est pour dire dédicace, laisser des morceaux de musique, tout ça, tout ce que vous voulez.
Et puis le message, il passera dans l'émission suivante, quoi, du coup.
Ouais. Et en fait, il passe que dans tous les 15 jours dans l'émission La Petite Cuillère. Ouais, c'est un peu complexe comme truc, mais bon, on essaye. Après, si vous voulez nous écrire par soit il y a un mail lapetitecuillere@rise.net ou l'atelier d'écriture ou par courrier à l'atelier d'écriture 91 rue Montesquieu 69007 Lyon. Voilà, on redit le numéro 07 81 35 93 71.
Ça, c'est le répondeur pour nous laisser des messages.
La boîte mail lapetitecuillere@rise.net. Nous, on écrit cuillère C-U-I-2-L-E-R-E @rise.net.
Et riseup R-I-S-E-U-P
.net
N-E-T.
Et après, par courrier, atelier d'écriture, 91 rue Montesquieu, 69007 Lyon. Et voilà, on termine avec un petit agenda.
Et oui, parce que le 14 mai, il va y avoir quelque chose de super qui va se passer. C'est en l'hommage de la commémoration des luttes des esclaves pour leur libération. Et je vais vous lire un petit peu ce qui est prévu au programme. C'est à la librairie Terre des Livres de Marseille. Et voilà, je vous lis. À l'occasion de la journée commémorative des luttes des esclaves pour leur libération, le Centre d'études postcoloniales de Lyon propose une conférence débat « Colorisme, regard croisé sur les sociétés européennes, africaines et américaines », suivie d'un atelier capillaire spécial afro. Rendez-vous le 14 mai à 14h30 à la librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, Lyon 7e. Le colorisme est un jugement de valeur. Celui que fait une personne noire à une personne d'une teinte plus foncée pour la dénigrer, la dévaloriser, l'humilier. C'est la réappropriation d'un schéma de pensée raciste par des noirs à la peau claire contre d'autres noirs à la peau foncée. Nous aimerions réfléchir ensemble aux séquelles de l'esclavage en tant que système de domination et d'assujettissement, à la manière dont sa pratique a eu un impact psychique sur les afrodescendants et descendantes. Chez de nombreux et de nombreuses afro-descendants et descendantes, le rapport à leur corps, à leur représentation et à l'estime qu'ils et elles ont d'eux et elles-mêmes a été terriblement contaminé par un profond sentiment de dévalorisation issu de l'esclavagisme en tant que système. Comme l'a montré Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, et comme l'a chanté Bob Marley dans Redemption Song, il perdure dans nos esprits une forme d'esclavage mental. Comment célébrer les luttes contre l'esclavage sans réfléchir ensemble aux vestiges encore durables de l'esclavage mental? À 14h30, c'est donc la conférence sur le colorisme, regard croisé sur les sociétés européennes, africaines et américaines, avec le Centre d'études postcoloniales de Lyon et Tawana Gomez Silva, doctorante en histoire qui traitera de la question brésilienne. Puis l'atelier capillaire spécial afro, partagez vos expériences et venez entendre les conseils en matière de coiffure, soins et hydratation d'une spécialiste, la fondatrice de Napi de France. Donc le 14, à partir de 14h30, on se retrouve à Terre des Livres. Voilà.
Et si vous voulez être dehors, il y a une manifestation dans soutien au peuple palestinien, parce que c'est un anniversaire de la Nakba quand... Du coup, c'est le même jour, 14h30, place Bellecour, quand ça a été officialisé la Palestine devenait Israël. Et puis, du côté des travailleurs et travailleuses et chômeuses et lycéens et lycéennes, la semaine prochaine, il y a une intersyndicale qui appelle à deux journées de manifestation et de mobilisation, les 17 et 19 mai. Et puis, solidarité aux prisonniers et prisonnières, à toutes les luttes que vous menez.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Dans 15 jours, la semaine prochaine, c'est Papillon.
Papillon sur Radio Canu et sur Radio Duo.